Voici le journal d'Adrien Serrière. Bonjour Adrien.
Bonjour. Que reste-t-il de l'accord de Paris 5 ans plus tard? Il y a les déceptions et de nouvelles promesses ambitieuses. En cette date anniversaire, elle repart en mission pour la biodiversité. La goélette Tara reprend la mer pour tenter de lever le mystère d'un acteur invisible du climat, le microbiome de l'océan. Un miracle médical selon Donald Trump, feu vert pour le vaccin Pfizer aux États-Unis. Le futur ex-président américain veut que la première dose soit administrée dans moins de 24 heures. En France, on n'en est pas là. Zoom sur une opération dépistage Covid dans les écoles d'une commune des Côtes d'Armor. L'épidémie catalyseur de pauvreté, on ira le voir en Italie. Les policiers dans la rue aussi hier pour dire leur colère, leur refus des accusations de racisme. Ça tient du miracle qu'on continue à faire notre travail. C'est ce que dit l'un d'entre eux à Périgueux. Après le séisme Mediapro, que va-t-il se passer maintenant pour le foot français? Un nouveau diffuseur est recherché. Et puis dans Esprit Sport, un footballeur qui s'engage contre la pollution des plastiques. Portrait de Benjamin Mendy en fin de journal.
Un mot sur l'invité ce matin à partir de 8h20. Ce sera Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français et député du Nord.
France Inter.
5 ans après les promesses de la COP21, un mini-sommet climat anniversaire se tient cet après-midi à Londres, en visioconférence, Covid oblige. Et comme il y a 5 ans au Bourget, on devrait entendre, Sandy Dauphin, beaucoup de belles promesses.
L'Europe voulait arriver à ce sommet climat avec un cadeau d'anniversaire, c'est le cas. Les 27 sont parvenus à se mettre d'accord sur un nouvel objectif, une baisse de 55% des émissions d'ici 2030 contre les 40% initialement promis. Fournir des plans climat plus ambitieux en 2020, c'était l'une des exigences de l'accord de Paris, qui comprend une clause de revoyure 5 ans après son adoption. Particularité de ce sommet, seuls les pays qui annoncent de nouveaux efforts pour baisser leurs émissions de CO2 ont le droit de prendre la parole. Ils sont environ 80. Parmi eux, de gros pollueurs comme l'Europe, l'Inde, la Chine. La Chine qui vise désormais la neutralité carbone en 2060. Parmi les déclarations attendues, le Royaume-Uni devrait annoncer la fin des subventions aux projets d'énergie fossile à l'étranger. À noter que le Brésil n'a pas obtenu de temps de parole lors de ce sommet. Son nouveau plan climat n'a visiblement pas été jugé plus ambitieux que le précédent.
Un sommet climat qui ne marquera pas encore le retour officiel des États-Unis dans l'accord de Paris, puisqu'il faut attendre l'investiture officielle de Joe Biden. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, Tara repart à l'action. Tara, c'est cette goélette blanche qui a déjà sillonné l'Arctique ou la Méditerranée pour étudier le plancton, les coraux, le plastique. Cette fois, Tara se penche sur le microbiome. Comme le microbiote humain agit sur notre santé, le microbiome régule l'océan et le climat. Le biologiste Chris Bowler est l'un des responsables de cette nouvelle expédition.
Le microbiome, c'est le peuple invisible de l'océan. C'est la vie unicellulaire de l'océan. C'est les bactéries et les protistes, avec bien sûr les virus, car ils font partie de cette vie microscopique qu'on trouve dans l'océan. Il y a beaucoup de choses encore inconnues. On a du mal à comprendre cette vie invisible. Si on fait la comparaison avec le microbiome humain, on apprécie beaucoup aujourd'hui le fait que le microbiome humain détermine l'état de santé, également notre bien-être, notre état psychologique. Et c'est exactement l'équivalent dans l'océan. Donc il faut essayer de trouver les indicateurs de bonne santé de l'océan et de trouver des autres indicateurs qui diagnostiquent un océan en mauvaise santé pour essayer de mieux comprendre comment l'océan fonctionne et quand c'est le moment d'intervenir pour essayer de recréer une océan en bonne santé.
Chris Bowler, joint par Sophie Becherel. Tara met les voiles cet après-midi à 16h de Lorient pour une mission de près de 2 ans.
Et le départ est donné également pour la campagne de vaccination aux États-Unis.
Oui, l'Agence américaine du médicament a donné son feu vert au vaccin du laboratoire Pfizer contre le Covid-19. Donald Trump, qui avait mis une grosse pression pour obtenir cet aval en urgence, a annoncé fièrement la nouvelle.
I have really good news. Today our nation has achieved a medical miracle.
J'ai de très bonnes nouvelles. Aujourd'hui, notre nation a réalisé un miracle médical. En seulement 9 mois, nous avons réussi à produire un vaccin à la fois sûr et efficace. C'est l'une des réussites scientifiques les plus importantes de l'histoire. Ça va permettre de sauver des millions de vies et de mettre un terme à cette pandémie une bonne fois pour toutes. La pandémie a débuté en Chine. Elle s'achève ici, aux États-Unis.
Donald Trump qui promet les premières injections de ce vaccin dans moins de 24 heures. En France, l'heure n'est pas encore à la vaccination, mais au dépistage. À Lamballe, dans les Côtes d'Armor, les personnels de tous les établissements scolaires se sont fait tester pendant 2 jours. Et c'était une première en Bretagne, Joanne Moison.
Et l'opération se déroule dans le gymnase du lycée Henri Avril, où 5 petites tentes de la protection civile ont été installées pour l'occasion. On voit des infirmières scolaires en blouse bleue avec des lunettes de protection glisser les fameux petits écouvillons dans le nez des volontaires.
Voilà, penchez bien la tête, vous êtes crispés là. On se détend, on nous donne quelques sécrétions.
Jean-Patrick est enseignant ici à Lamballe, il n'a pas hésité à s'inscrire pour se faire tester.
Je vais d'école en école, donc c'est ma responsabilité de vérifier que je ne suis pas contaminé, que je ne risquais pas de contaminer. Donc puisque j'ai l'occasion de contrôler, je le fais.
En plus avant les fêtes?
Oui, bien sûr, mais ça c'est plus, c'est quand même d'abord avant tout pour les élèves.
Jean-Luc, lui, est directeur d'école.
On a été contacté il y a 8 jours, on va dire c'est un élan de citoyenneté.
Les volontaires obtiennent leurs résultats dans la foulée du test. C'est très rapide et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de l'opération, explique Philippe Kozik, le directeur académique des Côtes d'Armor.
Prélèvement sur place et résultat sur place entre 20 minutes et 30 minutes après avoir passé le test. Donc c'est très rapide et dans la mesure où nous avons mis en place un système de rendez-vous, on voit qu'il n'y a pas d'attente, c'est très fluide, très détendu.
Une infirmière précise aux personnes testées que le test est fiable à 93%. Il peut donc y avoir des faux négatifs. Un peu plus de 250 personnes se sont fait tester sur les 450 potentiellement concernés.
Et les premières campagnes de tests massives à l'échelle de métropole commencent la semaine prochaine. Les premières villes sont Le Havre et Charleville-Mézières. En Italie, la pauvreté explose depuis le début de la crise du coronavirus. 5 millions d'Italiens vivent aujourd'hui sans pouvoir se nourrir dignement. Il y a 600 000 nouveaux pauvres cette année dans le pays, selon le Centre de recherche et d'études sociales Censis. Reportage à Rome de Bruce de Galzin.
Dans les rues de Rome, la pauvreté se voit davantage aujourd'hui. Carmine, 57 ans, s'en est sorti, mais il a vécu 6 ans dans la rue.
C'est pas compliqué de vivre dans la rue à Rome parce que c'est grand. Il suffit de trouver un trou et tu mets un toit au-dessus pour la nuit. Mais je vais te dire quelque chose. Un an dans la rue, ça t'en prend 5. Le problème, ce n'est pas de manger, car on meurt pas de faim en Italie. C'est de devoir lutter tous les matins pour survivre. Où je vais aller me laver, où m'habiller. C'est une course continue. Tu dois arriver le premier, sinon tu trouves rien.
Et c'est grâce à cette expérience, comme il dit, que Carmine a participé à la rédaction du guide pour les pauvres de la communauté Sant'Egidio. Son président, Marco Impagliazzo.
On l'a appelé la guide Michelin des pauvres. On peut trouver les lieux où manger, et dormir et se laver. Elle est faite par les mêmes gens qui vivent dans la rue et qui nous signalent les lieux les plus intéressants où on peut trouver un accueil dans la ville. Et réellement, il y a une pauvreté qui augmente fortement et qui touche de nouvelles parties de la population qui travaillent dans le tourisme, dans le monde du spectacle.
Et cette année, dans le guide, il y a bien plus de pages, car la seule communauté Sant'Egidio, par exemple, a ouvert à Rome 28 centres de distribution de repas. L'an dernier, elle en avait 3. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
C'est le no deal qui se profile entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Les négociations pour un accord commercial post-Brexit sont censées se terminer demain. Le pessimisme règne dans les deux camps.
En France, des policiers étaient dans la rue hier.
À Périgueux, ils ont fait le choix de faire des contrôles symboliques pour parler de leur exaspération à la population. Ils se sentent lâchés par leur hiérarchie, refusent les termes de violence policière et les suspicions de contrôle au faciès, sous-entendus selon eux par Emmanuel Macron. Des propos insupportables dans la bouche du chef de l'État pour Patrick Benoît, secrétaire d'Alliance Police en Dordogne.
Il y a beaucoup de policiers qui en ont vraiment ras-le-bol, qui se demandent pourquoi ils sont rentrés dans la police, parce que voilà, on est systématiquement dénigrés. Je ne dis pas que tous les fonctionnaires de police sont formidables, exemplaires, bien sûr, hein, ce sont avant tout des êtres humains. Ils sont recrutés parmi la population, ça reste le reflet de la population. Mais ça tient du miracle encore que les policiers acceptent de faire leur travail. Je pense qu'à un moment donné, oui, on se pose la question, mais vu qu'on nous prend, on est désigné comme étant des grands méchants, à ce moment-là, puisqu'on ne sert plus à rien, ben on fait plus rien. Et là, on verra ce qui va se passer derrière. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de bon sens, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien.
Patrick Benoît au micro de Xavier Dalmont de France Bleu Périgord. Des manifestations également aujourd'hui dans plusieurs villes, mais contre le projet de loi sécurité globale. Des mobilisations à Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Lille, Dijon, Caen, Tours ou Nancy. Pas d'appel à manifester à Paris. Les syndicats estiment que la sécurité des manifestants ne pourrait y être assurée. Sept membres de l'ultra-gauche sont mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Ils ont été présentés à un juge vendredi soir après leur arrestation en début de semaine à Rennes, Toulouse, en Dordogne et en région parisienne. Le parquet national antiterroriste a requis le placement en détention provisoire pour ces six hommes et une femme âgée de 30 à 36 ans. Aucune cible exacte de leur présumé projet d'action violente n'a été déterminée.
8h10 sur France Inter, c'est l'heure des sports.
Et serait-ce l'épilogue du conflit entre Mediapro et la Ligue de football professionnel? Le directeur général France du groupe sino-espagnol a annoncé hier aux salariés de la chaîne Téléfoot qu'un accord avait finalement été trouvé pour mettre fin au contrat liant les deux parties. Mediapro avait refusé de payer à la LFP ses échéances d'octobre et de décembre, considérant que la saison de foot était pénalisée par le Covid. Une conciliation a donc été lancée depuis. Elle a abouti à un accord qui prévoit le versement de 100 millions d'euros à la Ligue par Mediapro. Et ensuite, eh bien, que se passera-t-il? Et Emma Sarango, un nouvel appel d'offres.
Tout recommencer comme à l'époque, comme au printemps 2018, quand Canal, beIN, RMC Sport et Mediapro donc avaient chacun proposé un prix pour différents lots comprenant un certain nombre de matchs selon la valeur de l'affiche et le moment de diffusion. Cette fois, Mediapro ne candidatera pas évidemment, mais tous les autres sont potentiellement intéressés, et particulièrement évidemment Canal+, dont la direction suit avec beaucoup d'intérêt les négociations de cet automne. Mais le groupe a déjà prévenu qu'il était hors de question de s'aligner sur la somme de cette 180 millions d'euros promises par Mediapro. Quoi qu'il advienne, donc, il y aura effectivement un préjudice pour les clubs de Ligue 2 et de Ligue 1 qui avaient tous intégré dans leur budget, voire en partie dépensé, ces droits télé inédits dans l'histoire du foot français.
Les précisions d'Emma Sarango. À l'Euro de handball féminin, premier accro pour les Françaises qui ont fait match nul, 28 partout contre les Russes hier soir, à l'issue d'une rencontre exaltante. Et ce résultat rapproche un peu plus les Bleus d'une place en demi-finale de l'Euro. Un match nul pourrait suffire contre la Suède mardi prochain. Florent Manaudou est lui à moitié satisfait. Il a remporté hier soir le 50 mètres des championnats de France de natation, mais le chrono le laisse sur sa fin. 21 secondes 73, c'est en dessous du temps fixé pour prétendre empocher au plus vite son billet pour les Jeux de Tokyo. Mais il ne faudra pas qu'un autre nageur français fasse mieux. Cinquième anniversaire de l'accord international de Paris sur le climat, on vous en a parlé. L'occasion de s'arrêter ce matin dans un esprit sport sur des sportifs qui se mobilisent pour la planète et plus précisément contre la pollution des océans. Il s'agit du champion du monde de football Benjamin Mendy qui s'engage aux côtés du navigateur Yvan Bourgnon. Et il nous propose une publicité pour le poisson pané, pas comme les autres, Laetitia Bernard.
Effectivement, pour le poisson, pas PAS, plus loin, né dans un clip vidéo sur le ton de l'humour. On voit le célèbre défenseur en train de préparer à manger pour une petite fille.
On connaît tous ce moment, quand on cuisine du poisson aux enfants.
Tu sais, il faut vraiment que t'en manges pour être en bonne santé.
C'est fini tout ça.
Alors évidemment, sans l'image, la subtilité va vous échapper, mais en fait, quand il ouvre la boîte, il n'y a pas de poisson, il n'y a que des déchets plastiques. Tout passe par l'échange des regards, l'expression consternée de l'enfant. Il s'agit en fait d'une campagne de sensibilisation à la pollution des océans. L'idée, c'est d'expliquer que si on ne fait rien, la pollution due notamment aux emballages plastiques aura bientôt raréfié ou fait disparaître les poissons. D'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer, peut-on également lire dans ce spot qui a été conçu à destination des collégiens avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Une campagne portée par le navigateur Yvan Bourgnon et son association Cycliner.
Oui, Yvan Bourgnon, qu'on surnomme le gladiateur des mers, le navigateur, un franco-suisse, vainqueur de la Transat Jacques Vabre avec son frère en 1997, un marin connu pour ses records, ses défis sportifs hors normes, ses records de vitesse. Il est aussi un précurseur de l'écologie. En 2016, il a lancé cette association, Sea Cleaners, les nettoyeurs de la mer, si on traduit. Elle lutte donc contre la pollution avec différentes actions de collecte de déchets flottants et de ramassage de déchets à terre. Et elle met aussi en place des actions de sensibilisation pour le grand public, comme celle dont nous venons de parler. Je terminerai avec quelques chiffres que rappelle cette association. Plus de 8 millions de tonnes de déchets plastiques se déversent chaque année dans les mers. Plus de 1400 espèces marines sont affectées. Et Sea Cleaner note aussi qu'il faut près de 450 ans pour qu'une bouteille plastique se dégrade, immergée, ce temps est quasi infini.
Merci Laetitia Bernard, c'était Esprit Sport.
Dans le journal d'Adrien Serrière.